RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Voilà, 17h sur RMC. Les prochaines infos, évidemment, ce sera à 18h car nous sommes désormais dans le final de cette 11e étape du Tour de France à 12 km 300 de l'arrivée. Et une nouvelle fois, Fred s'abîme sévère en tête de peloton.
12 km 300 à parcourir, grand vent sur la route du Tour, un Tinkoff à l'avant du peloton, un peloton qui est en train d'exploser littéralement. C'est Maciej Bodnar, le Polonais, qui emmène dans sa roue Peter Sagan, son leader chez Tinkoff. Sagan est en train de faire sauter tout le monde à la pédale avec son équipier Bodnar en troisième position. Qui est dans la roue depuis Peter Sagan, c'est bel et bien le maillot jaune Christopher Froome. On est à 12 km de l'arrivée. Un trio de tête est en train de prendre forme avec Bodnar, le Polonais, coéquipier de Sagan, maillot vert, et le maillot jaune. Scène surréaliste dans cette étape toute plate en direction de Montpellier. Peter Sagan est à nouveau, comme hier, en sortie de Pyrénées, en train de mettre le feu à la course.
Incroyable, incroyable Chris Froome et incroyable Peter Sagan, le maillot vert et le maillot jaune de ce Tour de France, Jérôme, qui font péter la course, péter le peloton.
Et pile poil au moment où on l'avait dit tout à l'heure sur le final, il y a vraiment ce vent de côté. Eh bien, quatre coureurs et non des moindres.
Stannard, je crois.
Il y a, non, c'est Geraint Thomas qui a rejoint à la pédale, parce que là, c'est presque une attaque que vient de faire Chris Froome avec Peter Sagan et le maillot jaune. Et derrière, on doit réagir tout de suite et on voit les équipes BMC notamment qui viennent reprendre la tête du peloton.
Et oui, parce que Richie Porte se trouve dans un deuxième rideau. Et Quintana, est-ce qu'on a des nouvelles de Quintana? Est-ce qu'il fait toujours partie du Tour de France?
Quintana est dans le même groupe que Richie Porte à une quinzaine de secondes maintenant de ce quatuor de tête. On rappelle la composition du groupe de tête à 11 km de l'arrivée. Geraint Thomas et Christopher Froome chez Sky. Maciej Bodnar, le Polonais, et Peter Sagan pour Tinkoff. Derrière, on voit le Norvégien Alexander Kristoff qui s'affole complètement et qui a tiré la sonnette d'alarme, qui tente de revenir tout seul après avoir usé un équipier de son équipe Katusha pour revenir, parce qu'il sent bien le coup Sagan, le coup Froome en train de se dessiner. Le quatuor de tête continue de parfaitement s'entendre. Apparemment, Christopher Froome n'est pas là pour temporiser ni pour perdre de temps.
Oh,
il est là pour en gagner et pour piéger les concurrents, ses concurrents pour la victoire finale, qui s'appellent Quintana, Adam Yates et Valverde et compagnie. Tous piégés, le quatuor de tête. Froome, Thomas, Bodnar, Sagan, toujours avec 10 secondes d'avance sur la concurrence.
Voilà, c'est à signaler quand même que Quintana est relativement loin dans le peloton et il est seul,
aucun de ses équipiers ne l'accompagne pour tenter de faire remonter. Nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée de cette étape.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Voilà, 10 derniers kilomètres. Chris Froome va-t-il essayer de faire ce qu'il avait fait l'autre jour dans la descente vers Bagnères de Luchon, c'est-à-dire prendre quelques secondes à tous ses rivaux? Incroyable Chris Froome, incroyable Peter Sagan. Toutes les occasions sont bonnes pour ces deux grands champions.
C'est un festival. Il joue à faire du vélo, Peter Sagan, depuis un an, et son sacre mondial à Richmond. Peter Sagan qui profite de la moindre occasion pour amuser la galerie et faire souffrir la concurrence. On est à 9 km 500 de l'arrivée. Effectivement, Christopher Froome et Peter Sagan prennent tout le monde par surprise. Par surprise, pas vraiment, parce que tout le monde était averti aujourd'hui. C'était grand vent, la tramontane sur les routes du Tour, et Peter Sagan a parfaitement senti le coup. C'était peut-être la dernière occasion pour lui de faire sauter le verrou.
Et image forte aussi au sein du peloton, puisque Quintana notamment et derrière, mais en plus il est tout seul Quintana, il n'a plus d'équipier autour de lui, ni Valverde ni personne d'autre, il est seul à se débrouiller. Il est un peu en train de sombrer, le Colombien, là il est tout seul, il s'est fait piéger par le maillot jaune. Il va devoir compter sur les équipes des sprinteurs pour boucher ce trou.
Attention, il n'est pas seul à l'arrière de ce peloton, il est en compagnie d'Adam Yates notamment, et il est en 15e position.
Sans équipier.
Il est sans équipier effectivement, mais ne donnons pas l'impression que Quintana est à la dérive, il est simplement en train de subir les événements pour
ça
de
fait
bon.
Deux fois, ça fait
18
deux fois.
Secondes d'écart, 18 secondes d'écart entre le groupe Froome Sagan et effectivement le peloton au sein duquel se trouve Nairo Quintana qui s'est retrouvé piégé. Comment, Cyril, peut-on se retrouver piégé aujourd'hui alors que tout le monde est averti? Est-ce que c'est les efforts consentis depuis le début de l'étape qui font que là Quintana n'a pas pu suivre le rythme?
C'est une étape aujourd'hui qui est très très usante, harassante. La tension est permanente et il est impossible de se relâcher une minute sans risquer de se faire piéger. Et puis on frotte toute la journée, donc il y a un moment où il peut y avoir un petit peu de déconcentration, et c'est le moment qu'a choisi Peter Sagan pour partir à la pédale. Attention, c'est pas un piège là, c'est en force que c'est parti avec Bodnar et Peter Sagan. Et Seul le maillot jaune a réussi à revenir avec Stannard, qui a eu beaucoup de mal d'ailleurs à rentrer. Non, c'est pas un coup où on piège là, c'est un coup où on est parti à la pédale.
Oui, ça soufflait de la gauche, le vent soufflait de la gauche et Peter Sagan qui avait fait le même coup hier dans le final de l'étape à 25 km de l'arrivée à Revel a mis tout le monde sur la droite de la route alors que le vent soufflait de la gauche. Il a donné la consigne à son équipier solide rouleur Matej Bodnar d'accélérer très fort. Il était parfaitement calé dans la route son équipier. Derrière, il n'y en a que deux qui ont réussi à suivre. Un seul dans un premier temps, le maillot jaune Christopher Froome et son équipier Geraint Thomas.
On a deux Tinkoff et deux Sky qui font un véritable travail d'équipe.
Et
là,
du coup, tout le monde s'entend très très bien. Ça tourne très fort et 18 secondes, le dernier pointage sur le peloton avec les Direct Energy maintenant qui roulent à l'avant du peloton avec Dylan Groeneveld Groenewegen, le champion des Pays-Bas. Les Direct Energy qui roulent pour favoriser un éventuel sprint de Brian Cocard. Mais pour qu'il y ait sprint, il va falloir que le peloton soit à nouveau groupé. Et on vous le rappelle, c'est toujours un quatuor de tête qui ouvre la route avec à la barre en ce moment même le maillot jaune Christopher Froome, les coudes écartés comme en montagne, sauf que la route est toute plate en direction de Montpellier. Christopher Froome avec à ses côtés Geraint Thomas, son équipier de la Sky, et deux coureurs de la Tinkoff, le maillot vert Peter Sagan et Matej Bodnar, 18 secondes d'avance à 6 km de l'arrivée.
Jérôme. Ouais, non, mais c'était incroyable. Ce scénario est incroyable, d'autant plus que après la descente vers Bagnères, cette fois, Froome prend des secondes et attaque sur le plat. C'est-à-dire que là, il est sur tous les tableaux. Alors, on pouvait dire, oui, peut-être, il attaque en descente parce qu'il n'est pas sûr de sa force. Bon, quand on a vu à l'instant, comme l'a dit Cyril, comment ce groupe de 4 s'est constitué, je peux vous dire que l'anglais, il est très, très fort.
Et il continue de creuser les écarts. 22 secondes au dernier pointage entre les 4 hommes de tête et l'avant-garde du peloton. D'ailleurs, ça réagit sur le hashtag RMCLM, monsieur Grognon, nous, Froome a des corones, hein, on va le dire en espagnol. Il remonte dans mon estime énorme. Et Sylvain nous dit, depuis combien de temps n'a-t-on pas vu un champion du monde aussi magnifique que ce Peter Sagan, Froome Sagan, véritable grand champion de ce Tour de France, alors qu'il y a une victime.
Oui. Un prétendant à la victoire d'étape à août, il en a plein les bottes. Marc Cavendish, triple vainqueur d'étape sur ce Tour de France, qui
problème
vient
mécanique,
de
problème
rendre
mécanique.
Les armes. Problème mécanique, crevaison
problème mécanique,
peut-être.
Je pense problème de dérailleur arrière, dérailleur électrique.
Eh bien voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est que de mettre un dérailleur électrique sur son vélo. Bien fait les gars. Il y a quand même rien de mieux.
Un bon vieux câble.
Qu'un bon vieux câble pour commander un dérailleur. Ça arrive trop souvent, je trouve. Dernier pointage, 25 secondes d'avance pour le quatuor de tête composé, on vous le rappelle, du maillot jaune Christopher Froome, son équipier Geraint Thomas, du maillot vert Peter Sagan et de son équipier Matej Bodnar. 22 secondes au dernier pointage à 5 km de l'arrivée.
24 secondes. Comment on peut arriver à faire des écarts comme ça sur un peloton qui est lancé quand même à toute vitesse derrière les quatre échappés, Cyril?
Parce que vous avez quatre motos devant. Tout simplement, quatre motos, et que derrière, on a tardé à s'organiser. Maintenant, l'organisation s'est mise en place avec pratiquement toutes les équipes de sprinters qui roulent maintenant. Vont-ils pouvoir garder beaucoup d'avance? Ça, c'est un autre problème. Mais devant, vous avez quatre motos devant. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est quatre. Et donc, derrière, il va falloir 10 ou 12 équipiers pour essayer de revenir, pour ramener leur sprinter. C'est pas gagné les gars, hein.
Et les relais énormes faits par Peter Sagan, c'est vraiment impressionnant, Fred, hein.
Oui comme ceux portés par Christopher Froome. Quand Cyril dit 4 motos, c'est évidemment 4 excellents rouleurs.
Oui, après le débat qu'on a eu tout à l'heure, voilà, ça peut prêter à confusion
évidemment. Et c'est Julien Alaphilippe qui saute. En ce moment en train de sauter. Il y a quelques coureurs qui n'en peuvent plus de cette étape de Tramontane entre Carcassonne et Montpellier. Elle était annoncée de transition, mais quand on a ouvert les volets ce matin, on a vu que le vent soufflait et on a regardé les prévisions. Effectivement, elles étaient très claires. Il y allait avoir du dégât, des cassures, des bordures en direction de Montpellier. Tout le monde était au courant et c'est bien Peter Sagan qui, à 12 km de l'arrivée, a décidé de profiter du vent qui soufflait de la gauche pour mettre son équipier Bodnar à la barre et provoquer une cassure, une toute petite cassure, puisqu'ils sont 4 à l'avant de la course avec 23 secondes. On parle quand même là de quatre excellents rouleurs face tout de même à des équipes de sprinteurs qui sont encore au grand complet. Les Katusha, les Lotto Soudal, les ETX Quickstep, les Direct Energy. On a quatre équipes pour lutter contre quatre hommes, mais pour l'instant, le mano à mano tourne à l'avantage du quatuor de tête.
Et ce Peter Sagan, Jérôme, est increvable. Hier, on l'a vu à l'attaque tout au long de la journée. Il s'est fait passer sur le fil par Matthews pour la victoire d'étape, mais il est là tous les jours depuis le début de ce Tour de France. Impressionnant, Peter Sagan, tout comme l'est également Chris Froome. Mais on a deux grands champions avec des maillots distinctifs aujourd'hui.
On le disait hier, il ne porte pas son maillot de champion du monde pour rien. Il est le meilleur coureur du monde actuellement. Et quand on met à la suite d'une étape aussi difficile que celle d'aujourd'hui, non pas par le relief, mais par le vent, par les éléments extérieurs, quand on met deux coureurs comme Sagan et comme Chris Froome qui sont au top de leur forme aujourd'hui et depuis le départ de ce tour, eh bien on n'arrive pas à boucher l'écart, parce que là c'est une question de force. On a beau s'entendre derrière, on n'arrive pas à boucher la moindre seconde. On est parti pour avoir une arrivée assez cocasse ici à Montpellier.
Cyril, est-ce que Chris Froome ne risque pas de se ressentir des efforts consentis à bloc là dans ce final?
Alors ça, c'est, j'entends ce discours.
Je pose une question.
D'accord, mais je vais y répondre, parce que tout le monde se dit parce qu'on a fait une échappée de 10 kilomètres, on va pas être bien le lendemain. Mais ceux qui sont largués sont quand même moins bien que le mec qui les largue quand même.
Et ils essayent d'aller aussi vite surtout.
Et ils vont pas aussi vite en étant. Alors l'homme qui est devant, c'est qu'il est plus fort. Les autres sont largués, ce qui veut dire qu'ils sont dans le rouge. Ceux qui font le plus d'efforts et qui s'usent le plus, c'est pas ceux qui sont devant, c'est ceux qui sont derrière qui n'arrivent pas à suivre.
D'accord. Il est énervé le druide là.
Il est content. Il y a du panache dans cette action de Chris.
Non, ne parle pas de panache.
Bien sûr, tu sais bien. Alors on a le droit de l'utiliser quand ça va au bout. Et là, je peux vous dire qu'on vient de rentrer dans Montpellier, on vient de prendre le vent favorable. On va avoir 2-3 virages, 2-3 ronds-points à négocier. Moi, pour moi, c'est un vrai coup de panache parce que ça va aller au bout. Ils vont arriver à 4.
Ouais. Ça tourne en effet très très bien entre les 4 hommes de tête. On rappelle qu'à l'avant, on a le maillot jaune en personne. Christopher Froome avec son équipier chez Sky. Graham Thomas également présent à l'initiative de cette cassure intervenue à 12 km de l'arrivée. Peter Sagan, le maillot vert, qui se dirige peut-être vers sa deuxième étape sur ce tour après son succès à Cherbourg. Peter Sagan qui est accompagné de son équipier de la Tinkoff, Maciej Bodnar, le polonais, à 1,5 km de l'arrivée. Tout le monde prend son relais et en ce moment le maillot jaune, Christopher Froome, profite d'un vent favorable, les côtes écartées, tout le monde a les mains en bas du guidon. Ça tourne très très bien, on dirait une équipe de poursuiteurs la piste. Ils sont 4,
c'est normal, ils ne vont pas freiner pour une raison très simple, c'est que les Sky ne vont pas disputer la gagne de l'étape, donc c'est Peter Sagan ou éventuellement son équipier qui vont aller chercher la victoire.
Allez, nous sommes à l'instant même passés sous la flamme rouge du dernier kilomètre de cette 11e étape du
tour. La flamme rouge.
Ils sont 4 devant, le maillot jaune, le maillot vert et leurs équipiers à 700 mètres de l'arrivée. Fred, effectivement, Peter Sagan va sans doute remporter cette étape car Chris Froome va lui offrir, non ?
Chris Froome ne va pas se préoccuper de la victoire d'étape aujourd'hui. Son but, c'est de prendre la moindre seconde sur la concurrence, piéger un joli coup de maître pour Christopher Froome et Peter Sagan. Ils ne sont plus que 3 à l'avant puisque Geraint Thomas, le gallois de l'équipe Sky, a tiré un dernier bout droit, a donné un dernier relais. C'est Christopher Froome qui effectue les derniers efforts. Christopher Froome qui parle à Peter Sagan et à Maciej Bodnar. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur offre la victoire, il les encourage. Allez, roulez jusqu'au bout. De toute façon, je ne vous disputerai pas la victoire. Emmenez-moi le plus loin possible pour que je gagne. Christopher Froome en troisième position. C'est Bodnar à 150 mètres de la ligne. Maciej Bodnar qui se retourne pour laisser passer Peter Sagan. Sagan qui va enrhumer Christopher Froome. Mais Froome fait 2. Victoire du maillot vert slovaque, champion du monde. Peter Sagan devant Christopher Froome et Maciej Bodnar, 6 secondes seulement devant le peloton. C'est revenu très très vite, le peloton réglé par le Norvégien Alexander Kristoff. Gain minime, marginal gains comme on dit chez Sky, mais gain tout de même, et surtout un gros coup porté au moral, au mental de la concurrence. Christopher Froome et Peter Sagan sont les deux coureurs qui en ce moment dans le peloton font ce qu'ils veulent avec leur vélo.
Ça fait 11 secondes l'addition, parce qu'il y a des bonifications, 10, 6 et 4 secondes, deuxième pour Chris Froome, ça fait 5 secondes d'avance plus
ça fait toujours des petites secondes supplémentaires. Pierre-Yves Leroux derrière les lignes d'arrivée pour une photo, alors que d'autres groupes piégés vont terminer dans quelques instants. Pierre-Yves.
Ouais, avec effectivement Peter Sagan qui passe le premier, lui aussi devant les spectateurs en fond de ligne. Et à ce moment-là, on se dit, Mr. Tinkoff, vous en parliez tout à l'heure, restait finalement dans le peloton puisqu'il n'en manque plus qu'une derrière. Et
Pourquoi pas, c'est vrai que Lenny Tinkoff a dit si Peter Sagan en remporte deux de plus, deux de plus, je resterai peut-être.
Oui, il l'a lancé, le propriétaire de l'équipe Tinkoff, il l'a lancé comme ça autour de quelques belles bouteilles de champagne et quelques grands crus qu'il a l'habitude dont il a l'habitude de se délecter. Encore une victoire d'étape et il faudra peut-être effectivement prendre Oleg Tinkoff au pied de la lettre. En tout cas, il y en a un qui a fait de la patinette aujourd'hui dans le final, c'est Peter Sagan. Peter Sagan qui a demandé à Matej Bodnar d'accélérer à 12 km de l'arrivée. D'habitude, ce sont des tactiques d'équipe de les courses de bordure. Et bien là, ce fut une course de coureurs isolés, d'individus. C'est bel et bien Peter Sagan qui a décanté la course une nouvelle fois sur les routes toutes plates, mais ô combien vantées de l'Hérault. Victoire, deuxième victoire d'étape après celle de Cherbourg dès le deuxième jour de ce tour 2016 de Peter Sagan. Donc, et deuxième place pour le maillot jaune en personne, Christopher Froome, qui aurait été l'autre grand bonhomme de cette étape de transition. Et dire que demain, c'est l'escalade du Mont Ventoux. On se régale sur ce tour 2016. Il y a du spectacle tous les jours.
Si vous voulez, Cyril, je peux vous donner le classement quand même des 10 premiers.
Eh ben, je vous en prie, mon cher Bruyde.
Peter Sagan, Froome et Bodnar, ça, on le savait. Quatrième, c'est Christophe qui gagne le sprint du peloton devant Laporte, le français. Seyven fait sixième. Septième, Boissenhagen. Huitième, Greipel. Neuvième, Enger. Dixième, Nassen.
Voilà donc pour le classement de cette étape. Le maillot vert qui s'impose juste devant le maillot jaune, c'est quand même assez rare, hein, Cyril, de voir ce genre de choses sur les routes du Tour de France, surtout dans une étape de transition. Oui, une étape normalement en bois, mais elle n'était pas du tout en bois aujourd'hui.
Non, elle était en or pur.
En or massif, effectivement.
En or massif. Non, c'est relativement rare, mais une nouvelle fois, ça confirme ce que l'on explique dans différentes situations, c'est que presque naturellement, et ça depuis 50 ans, le maillot vert est un équipier du maillot jaune.
Ouais. Cyril, je te coupe quelques instants parce que Pierre-Yves Leroux a les premières réactions derrière la ligne d'arrivée. Pierre-Yves ?
Oui, avec Christophe Laporte.
Ouais, c'est dommage que je fais deux du peloton. C'est dommage qu'il y ait des mecs devant. Mais bon, c'est comme ça, ça s'est fait à la pédale. Donc, un peu déçu quand même.
Et l'éventail, toute la journée, ce que tu nous racontais, c'était la galère.
Bah, ça n'a pas débranché de la journée, quoi. De la tension, de la pression toute la journée. C'est une journée fatigante, usante. Du kilomètre zéro jusqu'à l'arrivée, c'était à bloc et ça frottait. Donc une journée usante, quoi. Et un résultat décevant au final.
Vous avez été épargné, comment, pas de problème, pas rien à déclarer pour l'équipe Cofidis?
Non, dans l'équipe, je crois pas, je sais pas. Moi, en tout cas, je suis pas tombé, l'équipe non plus, donc c'est déjà une bonne chose parce qu'il y avait pas mal de chutes.
Merci, voilà Christophe Laporte de la formation Cofidis. On entend assez mal, il y a des petits grésillements, on est dans une agglomération, le micro HF, la liaison HF est un peu plus compliquée évidemment aujourd'hui. Dans les rues de Montpellier, on vient de voir un peloton attardé en finir il y a quelques instants, Fred, avec notamment au sein de ce peloton un autre maillot distinctif, celui de Thibaut Pinot, le meilleur grimpeur du Tour, mais on le sait, il n'a plus aucune ambition pour le général, donc aujourd'hui c'était quasiment journée de repos, même si on peut pas parler de journée de repos pour ce peloton qui a tout donné, on vient l'entendre dans les propos de Christophe Laporte. Ils sont cuits après une journée comme ça. Hein.
Oui, Thibaut Pinot qui était ce matin déjà loin au général, hein, à plus de 15 minutes de Christopher Froome, qui est porteur du maillot à poids et qui visera à nouveau de gros poids demain sur le Mont Ventoux, évidemment classé hors catégorie, le géant de Provence. Thibaut Pinot qui a vécu une journée galère, il n'aime pas quand ça frotte et il n'aime pas quand il y a ce vent de côté ou trois quarts de côté. Thibaut Pinot qui a été pris dans une chute dès le début de l'étape et qui ensuite a été longtemps cité parmi les coureurs attardés, effectivement de nouveaux coureurs sont en train de franchir la ligne parce que le peloton a été scindé en plusieurs parties aujourd'hui. C'était journée de bordure comme en 2009 vers la Grande Motte quand Armstrong et Contador s'étaient expliqués alors qu'ils portaient le même maillot de la formation Astana. Et bien on aura eu encore du grand spectacle aujourd'hui, ça n'a pas été une étape de transition du tout, ou alors une étape en accéléré avec les gros des gros cadors à l'avant de la course. On le rappelle, la victoire de Peter Sagan, le maillot vert devant le maillot jaune de Christopher Froome. Troisième, Matej Bodnar derrière. Le peloton a été réglé 6 secondes plus tard par le sprinter norvégien Alexander Kristoff. Nouveau grand coup du grand monsieur du cyclisme international aujourd'hui. J'ai nommé Peter Sagan, vainqueur de sa 6e étape sur le Tour, la 2e depuis le départ de ce Tour 2016.
On va retourner derrière la ligne d'arrivée avec Pierre-Yves Leroux qui tente d'approcher de Brian Coquard, sur lequel on comptait aujourd'hui pour la première victoire d'étape française. Malheureusement, ça ne s'est pas terminé au sprint. Brian Coquard avec toi, Pierre-Yves ?
Pas encore. Il s'habille et il descend du bus dans quelques instants. Et puis, je peux vous dire qu'on aura Arthur Vichot dans quelques instants. À moins que Thomas puisse répondre à une question. Thomas, est-ce qu'on peut faire juste un mot ? Non, pas pour l'instant. Thomas Vauclair qui est rentré, qui a fait un petit signe de la main. Et Arthur Vichot qui a été déclaré combatif du jour. Donc, on le retrouvera tout à l'heure dans la zone mixte.
Très bien. Mais on se quitte quelques instants et on revient pour les premières réactions sur la route du Tour à l'arrivée ici à Montpellier de cette 11e étape remportée de main de maître par un certain Peter Sagan devant Christopher Froome. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
On va, voilà, Peter Sagan, le vainqueur de l'étape, on va essayer de traduire.
Fred. And Thomas just went come with us.
Quand j'ai vu Froome et Geraint Thomas sont venus avec mon coéquipier Bodnar et moi. J'ai bien compris qu'il fallait mettre full gaz, plein gaz.
Unbelievable.
Et on s'est livré à un numéro incroyable en tête de course.
Ah well, today everybody was like it's crazy wind, it's crazy wind.
Aujourd'hui, tout le monde disait putain, qu'est-ce que c'est que ce vent, un vent fou.
I don't know how much. And
on a le peloton qui s'est scindé en plusieurs parties.
Will be dangerous, you have to stay in the front.
Voilà, c'était évidemment une étape très dangereuse. Tout le monde voulait rester à l'avant du peloton.
Green jersey, yellow jersey and two guys like Bodnar and Thomas, it was like it's you know, you don't have.
Tout le monde voulait être à l'avant et à la fin on a réussi à faire ce coup.
Thank you very much.
Et c'était une journée exceptionnelle pour moi.
Exceptionnelle pour Peter Sagan, effectivement. Deuxième hier, premier aujourd'hui. Pierre-Yves derrière la ligne d'arrivée avec un autre coureur du peloton, un Français, Samuel Dumoulin,
ouais,
qui était également à l'action hier.
Samuel qui en profite pour faire quelques selfies à l'arrivée, mais on imagine que vous avez pris moins de plaisir aujourd'hui qu'hier, hein. C'était plus compliqué.
Ah ouais, c'est sûr que là il n'y avait pas photo, hein. C'est une étape très compliquée, voilà, avec le vent. Garant toutes les équipes extrêmement nerveuses sur des routes qui étaient assez compliquées, qu'on n'avait pas encore empruntées depuis le début du Tour de France. Et voilà, c'est difficile, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Les plus faibles se retrouvent un peu à l'arrière, on prend des cassures et on fait des efforts pour revenir dans le peloton. Puis au bout d'un moment, ça lâche. Donc voilà, j'avais les jambes lourdes d'hier, je connais ce genre de situation qui sont très dangereuses et là j'ai pas insisté, je me suis mis dans la roue d'Alexis Goujard et puis on a rallié l'arrivée tranquille, mais pour nous l'essentiel c'est que Romain soit avec les favoris et je crois qu'il y a eu une belle course de la part de mes équipiers d'AG Loser la mondiale à qui j'avais un petit peu passé le relais aujourd'hui après ma journée difficile d'hier où j'ai laissé pas mal de plumes et voilà, bon, on peut continuer sereinement et s'attaquer au géant de Provence demain.
Vous savez qui a gagné l'étape ?
Ouais, je sais. C'est ce que je me disais à la fin, on récupère pas de la même manière.
Merci beaucoup, Samuel Dumoulin. Effectivement, Peter Sagan était avec lui, échappé hier. Ouais. Et lui, il était encore devant et il a réussi à s'imposer.
Oui, c'est ça qui est assez incroyable quand même. Avec ce Peter Sagan, Fred, Cyril, il est à l'attaque tous les jours et on a l'impression qu'il n'est jamais fatigué, ce garçon. Et cette année, la science de la course, il l'a retrouvé. Ah, on est avec Brian Coquard, on posera la question après. Brian Coquard, le sprinter de la formation Direct Energy.
Oui, Brian qui s'est rhabillé, est monté dans le bus. Quel est le sentiment là ? C'est de la déception parce que c'était un sprint aujourd'hui où vous vous dites finalement c'était tellement compliqué que c'était peut-être pas le jour.
Ben, je viens de voir les images là et ouais, ils ont fait un sacré numéro là à 4. Et moi j'étais pas trop mal placé dans la bordure et je trouvais que ça roulait déjà très vite quand ils sont sortis et c'est à la sortie d'un rond-point. De la déception. Oui et non, on n'arrive pas pour la victoire, donc vous savez, après c'est tout de suite différent et Et non, c'est comme ça. Là, ils ont fait un sacré numéro devant.
Vous pensiez qu'il y avait des possibilités comme ça, que ça s'échappe par devant avec le vent?
Ouais, mais à 4, non. Non, non, on s'attendait à une bordure, mais une bordure à 4, ça me paraissait, ouais, assez compliqué, quoi. Mais non, ils ont fait un sacré numéro.
Ils sont impressionnants, Froome, Sagan.
Ouais, bah, je pense que Sagan est aussi impressionnant que l'année précédente.
Oula, on a une perturbation.
Une invitée surprise.
Ouais, voilà, une petite surprise.
Sagan, l'année dernière, a été hyper fort aussi cette année, voilà. Il grimpe, il sprint. Et... ouais, c'est le meilleur coureur du monde. Hein. Champion du monde, il est pas champion du monde pour rien.
Demain, ça sera plus compliqué, forcément. C'est le vent tout. On ne sait pas encore si l'arrivée aura lieu tout en haut, puisqu'il y a beaucoup de vent. Comment on gère quand on est sprinter un tel mont chauve?
Vous savez, là, ça va. Parce que c'est l'arrivée au sommet, il n'y a que ça dans la journée. Donc, ça va aller. Après, que ça soit tout en haut ou au milieu, bon, je préfère un peu moins haut. Hein.
Merci beaucoup Brian. On en saura plus sans doute entre 18h et 19h. Pour l'instant, il n'y a pas de décision prise de la part des organisateurs d'ASO, mais ça devrait être le cas d'ici une heure environ. On en saura plus pour savoir si cette étape du côté du Mont Ventoux est un petit peu tronquée.
Eh oui, on espère évidemment que ce ne sera pas le cas, parce que ce géant de Provence est très difficile, notamment dans le final, hein, Cyril. Donc ce serait quand même vraiment dommage de se priver des derniers kilomètres de l'ascension du Géant de Provence. Oui, bon sûr, il a dû redescendre, on va le retrouver dans quelques minutes. Fred, on va rappeler les résultats de cette étape incroyable finale, avec la victoire du champion du monde, porteur du maillot vert, qui a porté le maillot jaune sur les routes de ce Tour de France, qui a également remporté une première étape et qui est vraiment l'homme du Tour cette année pour l'instant.
Et il en voit de toutes les couleurs et en fait voir de toutes les couleurs à la concurrence et aux spectateurs, aux aficionados du cyclisme. Peter Sagan, 26 ans, champion du monde slovaque, porteur du maillot vert, déjà monsieur grand bonhomme de l'étape d'hier en direction de Revel, où il avait terminé deuxième, a encore fait parler la poudre dans ce final tout plat vers Montpellier, tout plat mais très vanté, étape dans la tramontane avec de nombreuses cassures toute la journée. Et c'est à 12 km de l'arrivée que Peter Sagan a demandé à son équipier Matej Bodnar d'accélérer un grand coup sur la droite de la route, alors que le vent soufflait de gauche. Les deux hommes de la Tinkoff sont partis seuls. Un homme a répondu, le maillot jaune en personne, Christopher Froome, sur des routes toutes plates. Geraint Thomas, le coéquipier de Froome, a réussi à recoller. Ils ont été quatre dans le final à tourner comme de véritables poursuiteurs sur un anneau de piste, et finalement ils ont terminé avec 6 secondes d'avance sur le peloton. Victoire donc de Peter Sagan, sa deuxième depuis le départ de ce Tour de France, sa sixième en carrière, devant Christopher Froome, Matej Bodnar. Le sprint du peloton est réglé pour la quatrième place par Alexander Kristoff, le Norvégien. Cinquième place pour le Français Christophe Laporte. Au classement général, eh bien, selon...
Il y avait 12 secondes de mieux. Hein.
À la surprise générale, Christopher Froome creuse l'écart et il compte désormais 28 secondes d'avance sur son dauphin, le Britannique Adam Yates. Nairo Quintana a encore pris un coup de vent aujourd'hui. Il est à 35 secondes du maillot jaune britannique, qui lui aussi profite de chaque occasion pour prendre du temps et surtout pour poursuivre son opération séduction. Et il va devenir de plus en plus populaire avec des coups comme ça.
Et on l'a entendu tout à l'heure dans les tweets qui sont arrivés sur l'hashtag RMC Live. Le premier Français au général, c'est toujours Romain Bardet. Il est sixième avec un retard de quasiment une minute, 56 secondes de retard pour Romain Bardet. On continue évidemment de débriefer cette 11e étape qui nous a réservé une belle surprise aujourd'hui. Ici à l'arrivée à Montpellier, victoire de Peter Sagan, et le maillot jaune renforce sa belle tunique. Chris Froome, leader, avec désormais 28 secondes d'avance sur Yates.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Montpellier pour cette 11e étape du Tour de France, une étape magistrale, alors que ce devait être une étape en bois. Eh bien, on s'est régalé tout au long des 162 km de cette étape, remportée donc il y a quelques minutes par le Playboy champion du monde et incroyable coureur qui est Peter Sagan, qui s'impose ici devant Christopher Froome, le maillot vert devant le maillot jaune. C'est quand même un scénario assez rare sur les routes du Tour de France, Fred.
Oui, je soupçonne Jérôme Pinot qui a effectué les 11 derniers kilomètres à vélo aujourd'hui. C'était la première fois qu'il chevauchait une bicyclette depuis le départ de ce Tour. Je soupçonne Jérôme Pinot d'avoir tuyauté Peter Sagan, car c'est bien dans les environs de Pignan à l'approche de Montpellier que le maillot vert, champion du monde en titre, a fait sauter la course avec son équipier Matej Bodnar. Il a lancé les hostilités de loin et seul Christopher Froome puis son équipier Geraint Thomas ont été capables de suivre le duo de la formation Tinkoff. Une journée très ventée, une journée dans la tramontane entre Carcassonne et Montpellier. Ça devait être une étape de transition. Il y a eu beaucoup de cassures. Le peloton était à nouveau groupé dans le final, mais contrairement à ce que l'on pouvait attendre, ce ne sont pas les équipes de sprinteurs qui ont fait la loi, mais le grand bonhomme du cyclisme mondial, le meilleur coureur du monde a priori aujourd'hui, Peter Sagan, qui a tout déclenché et qui s'impose donc ici à Montpellier devant Christopher Froome, le maillot jaune. Bodnar est troisième, Alexander Kristoff règle le sprint du peloton pour la quatrième place, cinquième Christophe Laporte.
Alors le gain est assez marginal, mais on sait qu'au sein de la formation Sky, Cyril, Jérôme, on adore les gains marginaux, 6 secondes d'avance sur le peloton, mais qui ont été un petit peu augmentées par le jeu des bonifications, ce qui fait que 12 secondes en tout pour Christopher Froome. Donc la question un peu provoque, tout ça pour 12 secondes, Cyril. Est-ce que le jeu en valait la chandelle?
Il n'y a pas de petits gains. Il y a des gains qui s'additionnent à des gains. C'est pour ça qu'on l'appelle effectivement, quand on appelle les gains marginaux. Eh bien, il a pris 23 secondes au lac de Pérol. Il en a pris 12 aujourd'hui.
Lac de Payol.
Payol, ça fait donc 25, ça fait 35 secondes. 35 secondes sur deux finales de course, c'est bien. Ça paraît pas excessif comme ça, mais même psychologiquement, c'est important. Et puis surtout, il démontre aujourd'hui qu'il a les chevaux pour aller dans le final.
Ouais. Et il met des coups sur la tête de ses adversaires, notamment Quintana, qui la semaine dernière, Jérôme, était abattu à l'arrivée à Bagnères-de-Luchon. Là, ce soir, son moral va encore en prendre un coup. Il dit, bon, ben, à force, ça va commencer à faire beaucoup. Alors évidemment, demain, on arrive dans le domaine de prédilection de Quintana, mais franchement, ce coureur nous déçoit jour après jour. Hein.
Oui, surtout qu'il va finir par devoir passer à l'attaque et faire travailler son équipe, parce que finalement c'est Froome qui va être dans la défense et va devoir adopter une attitude à la Quintana, à suivre Quintana. Le Colombien va devoir prendre la course en main pour essayer de se débarrasser de l'Anglais. On arrive au pied du Ventoux avec déjà 35 secondes de retard. Le Colombien est aujourd'hui, moi c'est l'image qui m'a frappé, je me suis peut-être mal expliqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé seul au milieu du peloton, mais égaré, sans équipier, ni Valverde, ni Hervit. Les coureurs désignés pour l'aider dans la plaine n'étaient pas là. On a senti le Colombien à chercher un peu la bonne roue, qui peut me ramener, et l'autre, l'Anglais, il est devant et j'arrive pas à aller le chercher. Ça commence à faire beaucoup, et la théorie du j'attaque dans la descente parce que je suis pas capable d'aller dans la montée, aujourd'hui c'est la cuisse qui a parlé, et à la cuisse, bah, Froome il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs encore en ce moment.
Mais
et heureusement que les équipes de sprinteurs ont roulé derrière le quatuor de tête.
Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils viennent si tard s'organiser.
Oui, mais ils se sont organisés, elles se sont organisées. Les équipes.
C'était monté à 27
secondes, l'écart maximum avec mon chrono. Hein.
Les équipes Katyusha, Direct Energy et Lotto Soudal se sont effectivement organisées sur le final.
Ils ont attendu qu'il y ait 20 secondes.
Et heureusement pour Quintana, parce que si les équipes de sprinteurs avaient baissé les bras et avaient dit ok, Sagan et Froome sont devant, on a perdu l'étape, démerdez-vous les prétendants à la victoire finale, je peux vous dire que Quintana aurait beaucoup souffert, parce qu'effectivement il était esselé, isolé dans le peloton. Nairo Quintana qui va voir le Ventoux se profiler avec un certain soulagement, parce que là il n'aura besoin de personne.
Ce que je pense, moi, c'est que Quintana, contrairement à ce que vous évoquez, c'est qu'il est peut-être content de n'avoir perdu aujourd'hui.
Oui, mais il perd encore, 12, oui, Cyril. Mais,
attendez, aujourd'hui, il pourrait prendre 10 fois plus.
Oui, bien sûr, bah, tu peux.
C'est là où il est le moins bien. Et d'ailleurs, vous avez vu un Colombien qui est bien dans les bordures. Aujourd'hui, il a limité, il a perdu que 12 secondes. Mais il doit être heureux ce soir de n'avoir perdu que 12 secondes.
Un vainqueur potentiel du Tour de France, est-il seulement un grimpeur?
Mais il a perdu 12 secondes.
On a l'impression que Quintana, il sait faire qu'un truc, c'est monter l'école. Le reste,
c'est déjà pas mal. Moi, je voudrais déjà monter l'école comme lui.
C'est déjà pas mal.
Dans la roue à Froome. Dans la roue à Froome, il monte l'école. Et on attend qu'il.
peu, je trouve que pour un Colombien, il s'en est très bien sorti. il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Demain, Froome,
il n'a perdu que 12 secondes sur une étape où il pouvait en perdre 2 ou 3. Et quand on parle de Valverde, moi j'ai vu Valverde aujourd'hui en équipier modèle. Il a pété dans le final. Oui, mais alors attends, le nombre de kilomètres qu'il a fait, la gueule dans le vent avec Quintana dans la roue, on peut tirer un coup de chapeau à Valverde aujourd'hui.
Oui, on se posait la question avant le début du tour.
Dans cette équipe, hein,
parce oui, que mais les autres, on ne sait pas.
On a pas vu les autres.
Ils sont tranquilles, ils font du tourisme sur les routes de ce Tour de France.
C'est un peu sévère.
J'exagère. Thibaut Pinot est avec Pierre-Yves Leroux derrière la ligne.
Ouais, Thibaut, journée compliquée.
Oui, pour tout le monde, hein, avec le vent.
Ouais, très compliqué, très nerveuse. Donc voilà, c'était une journée galère comme le Tour nous en donne tous les ans. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était peut-être l'étape la plus dure nerveusement depuis le début du Tour.
Vous faites piéger en début d'étape parce que voilà, vous êtes un peu à l'arrière du peloton ou
Ouais, bah de toute façon, c'était une journée où j'avais pas grand-chose à gagner, il fallait que je fasse attention. Après voilà, c'était une journée où ceux qui sont en forme, ils sont devant et ceux qui traînent un peu la misère, ils sont derrière à prendre toutes les cassures. Donc aujourd'hui, c'était une journée compliquée.
C'est demain qu'il faut être en forme de toute façon pour le Ventoux.
Ouais, bah j'espère être en forme demain et on verra, mais ça va être une journée encore très dure demain avec beaucoup de vent au départ. Donc les 100 premiers kilomètres vont être très durs pour les grimpeurs. Donc demain, je pense que ça va être une journée décisive pour le Tour de France. Ouais.
En juillet, pour les Français, toujours important, et le Ventoux en plus. Hein.
Ouais, le Ventoux, donc voilà, que le meilleur grimpeur, donc j'espère avoir de bons souvenirs et tout se passe bien. Ouais.
Regardez ce maillot.
Bah, c'est l'objectif, si les jambes sont là, ça va. C'est ce que je souhaite. Ouais.
La Marseillaise, dans le bus demain, Marc Madiot va vous la demander, vous avez répété ou pas?
On l'a répété, oui, durant tout l'Euro, on l'a répété, donc on l'a demain, on saura la chanter parfaitement. Ouais.
Avec ce maillot sur les épaules, ça donne envie quand même de faire quelque chose dans le Ventoux.
Ah, bien sûr, ça donne envie. Après, voilà, c'est faut avoir les vents, mais il faut avoir les bonnes sensations. Il faut être très dans une journée parfaite demain. Donc ça, c'est des choses qu'on décide pas, mais l'envie est là en tout cas.
Thibaut Pinot avec son maillot à poids, donc qui répond aux questions. Et puis Arthur Vichot qui devrait arriver dans quelques minutes, puisque c'est lui, je vous le disais tout à l'heure, qui a eu le prix de la combativité.
Pierre-Yves, on va écouter Christopher Froome qui s'exprime actuellement.
Yeah, I also couldn't believe it. I definitely didn't think I was going to be coming second today. Sprinting
against Peter Sagan. J'y crois pas. J'ai du mal à croire au résultat que j'ai fait aujourd'hui. No, I mean, arriver deuxième, really c'était vraiment pas attendu.
That I relied on my teammates all day.
Je me suis reposé sur mes équipiers tout au long de la journée. C'était très nerveux, très dangereux avec le vent.
That's what at the end led to me being able to go with Peter Sagan.
Et grâce au travail de mes équipiers, j'ai été assez frais dans le final pour suivre Sagan et son équipier.
Sprinter stage today with Chris Froome in the sprint. Tomorrow's another story.
Qu'est-ce que vous attendez de ça?
Yeah, well, this time the sprint with Peter Sagan up there might be a bit different.
Ce sera a priori un peu différent d'un sprint contre Sagan.
Again, there's this really strong winds forecasted for tomorrow, so that could play.
Demain, ils annoncent encore un fort vent pour le Ventoux.
So. Yeah, we're going to have to be again just completely switched on and ready for
là encore, il va falloir rester concentré tout au long de la journée pour aborder le Ventoux dans les meilleures dispositions. Christopher Froome qui évoque l'approche du Ventoux en même temps que l'ascension du Ventoux. Un fort vent à nouveau annoncé.
Thibaut Pinot également l'a annoncé. Hein, il y aura beaucoup de vent dans l'approche du Mont Ventoux qui est en toute fin d'étape.
Ne pas être piégé dans l'approche. Petit challenge pour Pierre-Yves Leroux. Pierre-Yves, si tu as l'honneur d'interviewer Christopher Froome dans les minutes qui viennent, n'hésite pas à lui poser la question s'il y a la place. Qu'a-t-il dit aux deux coureurs de l'équipe Tinkoff dans les 100 derniers mètres? Parce qu'il a tiré un grand bout droit, un grand relais avant de s'écarter sur la droite de la route et de discuter avec Sagan et Bodnar alors qu'un sprint se profilait. On est assez curieux ici de savoir ce qui a bien pu se dire entre ces trois coureurs.
Parfait, on rappelle donc la victoire d'étape de Peter Sagan ici à Montpellier, le champion du monde slovaque qui s'impose au sprint devant Christopher Froome, le vert devant le jaune et au classement général, eh bien Christopher Froome prend quelques petites secondes supplémentaires d'avance sur tous ses rivaux, puisque son dauphin Adam Yates est désormais pointé avec un retard de 28 secondes avant d'attaquer le Mont Ventoux demain. On continue de débriefer cette étape jusqu'à 18h avec Cyril Guimard, avec Jérôme Pinot, avec Fred et avec Pierre-Yves Leroux qui se trouve derrière la ligne d'arrivée et qui tente de faire réagir tous les coureurs du peloton. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h. Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour de France jusqu'à 18h pour évoquer cette 11e étape du Tour qui s'est donc achevée il y a quelques minutes à Montpellier par la victoire du champion du monde en personne, Peter Sagan, qui hier avait terminé deuxième de l'étape à Revel et qui aujourd'hui a voulu mettre les choses au point en montrant une nouvelle fois qu'il est le meilleur coureur du peloton. Peut-être pas en haute montagne, c'est le seul truc qui lui manque, mais quel grand champion. Messieurs, avant de récapituler tout ça, on va partir derrière la ligne d'arrivée puisque Georges Quirino est allé voir ce que les coureurs de la formation Movistar pensent de cette étape et notamment Nairo Quintana, l'un des grands battus du jour. Georges.
Oui, devant le bus Movistar où Nairo Quintana est sorti il y a quelques minutes devant une centaine de supporters colombiens, comme d'habitude, qui étaient là pour l'encourager et beaucoup de journalistes pour attendre ses explications après cette étape. Nairo Quintana qui est apparu quand même assez affecté hein, par ce nouveau coup de Trafalgar réalisé par Christopher Froome, qui a parlé de précieuses secondes perdues, qui a surtout exprimé un peu de colère contre les organisateurs. Il disait voilà, aujourd'hui on a eu un vent incroyable, c'était dangereux, on n'a même pas pu s'alimenter ni boire. Il faut vraiment que les organisateurs pensent aux coureurs qui sont sur leur vélo. C'est également ce que nous a dit le manager Eusebio Unzué, qui nous a dit mais ouais, c'était dangereux aujourd'hui, les gens se rendent pas compte. Je pense que même Christopher Froome serait d'accord avec moi. Donc c'était assez surréaliste de voir cette première réaction des Movistar. Et puis Alejandro Valverde également, qui s'est arrêté quelques instants. On lui a demandé qu'est-ce que Nairo Quintana faisait bien tout seul dans le peloton dans les derniers kilomètres. Il nous a répondu très sérieusement, mais attendez, il n'était pas tout seul, Nairo Quintana, on a toujours été avec lui, on a toujours été avec lui dans le final. Donc voilà un peu pour les réactions chez Movistar, où on semble quand même bien choqué, un peu comme après l'arrivée à Bagnères-de-Luchon il y a quelques jours, choqué par ce nouveau coup réalisé par Christopher Froome auquel il ne s'attendait pas encore visiblement.
Eh oui, mine le moral de la formation Movistar. Merci Georges pour ces informations. Donc la réaction de Quintana et toute son équipe, Cyril. Je pense que les propos que tu viens d'entendre doivent te hérisser le poil. Il faudrait faire que des étapes sans danger, sans vent, sans neige, sans froid, sans pluie. Bah autant mettre un toit comme à Wimbledon sur les coureurs du Tour de France. En tous les cas pour certains. Hein.
Mais c'est toujours ce type de réaction que l'on a quand on est dans la peau du perdant, c'est toujours la faute des autres, quoi. Si au contraire ils avaient repris du temps à Froome aujourd'hui, ils auraient dit bah oui, les conditions étaient difficiles, mais c'est la course. Et donc bah tout le monde a les mêmes conditions. Là, bah ils étaient pas dans leur élément aujourd'hui. Donc on va chercher tous les alibis, toutes les explications pour justifier ce que j'ai toujours l'alibi de l'échec, c'est la faute des autres, c'est pas parce qu'on est moins fort, c'est pas parce qu'on est moins bon, c'est pas parce qu'on est moins bien organisé. Non, c'est la faute des autres, c'est pas nous.
Jérôme.
Ouais, ce qui est choquant en plus, c'est l'organiser son manager qui appuie ses propos quand il nous dit qu'il n'était pas tout seul. On va très certainement débriefer du côté de Movistar et on va s'apercevoir qu'il était bien tout seul
dans le final,
que son équipe, oui, que son équipe n'était pas autour de lui. Et c'est aussi la réaction, c'est un aveu de faiblesse du coup de sa part de dire oui, on avait trop de vent, on avait trop de ci, on avait trop de cela. Et il avait peut-être la possibilité l'autre jour d'attaquer dans Ordino Arcalis. Et pourquoi il n'a pas attaqué? Parce qu'il y avait trop de grêle. On aurait dû arrêter aussi. Il a un moment donné, il doit prendre les devants, prendre du temps. Si aujourd'hui il y a trop de vent pour lui, alors il faut pas qu'il vienne sur le Tour de France. On n'est pas en Colombie. Il faut pas compter que sur les éléments de la montagne et de son terrain. Il faut être bon partout quand on doit gagner le Tour. C'est un peu la même réaction qu'avaient certains coureurs quand on pestait après les pavés. Messieurs, quand on veut gagner le Tour de France, il faut savoir être bon partout. Et aujourd'hui, complet, Chris Froome l'a prouvé.
Il faut être complet. Petite bague sur le hashtag RMC Live. D'ici, s'ils veulent pas de vent chez Movistar, ils devraient se mettre au vélo d'appartement. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de vent dans un appartement.
Humour, quand tu nous tiens.
Ouais, je pense que les propos exprimés par Nairo Quintana visent, quand il évoque notamment l'alimentation, l'hydratation, on n'a pas pu manger, on n'a pas pu boire. Je pense,
c'est vrai pour les autres aussi.
Absolument. Mais
ils sont partis à 13h35 après le déjeuner.
Non. Je pense qu'il fait allusion là à la longue période, au long laps de temps où les voitures de directeurs sportifs n'ont pas pu accéder au premier peloton, a été coincé derrière un deuxième peloton puisqu'on le rappelle. Cette étape a été très vantée avec de nombreuses cassures et du coup, eh bien, ce sont les motos neutres, les motos avec des bidons juchés sur leur top case qui alimentaient avec un bidon par coureur à tour de rôle les coureurs. Effectivement, c'était moins confortable que lors d'une étape
normale. Oui, Frédéric Sagan aussi, Froome aussi, Greg Pearl aussi.
Je tiens juste à préciser la teneur des propos de
Frédéric. Ce serait donc une excuse bidon.
Tout à fait, bien vu. Très très bien vu.
Après le coup du bidon en haut d'Aspin.
Bon, en attendant, la meilleure réponse qu'il peut apporter Quintana, c'est sur la route, c'est sur le vélo, debout sur les cocottes, debout sur les pédales.
On va derrière la ligne d'arrivée. Christian Prudhomme est en compagnie de Pierre-Yves.
Christian, on n'a pas forcément l'habitude de vous voir là dans la zone mixte. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier?
Non. Non, je voulais vous dire que l'étape demain, il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui, hein, chacun s'en est rendu compte, le vent.
Ah, ça coupe malheureusement.
La vision de Météo France, et donc l'arrivée de l'étape sera jugée au Chalet Reynard après 10 km d'ascension et non pas tout en haut. Le préfet de Vaucluse vient de faire une dernière reconnaissance en hélicoptère.
Ça coupe.
Pour la sécurité des coureurs, pour la sécurité du public. Je m'en suis entretenu avec le président du département et on ne peut pas nous jouer à quai tout double et se dire tiens, au dernier moment, on va décider de mettre la ligne d'arrivée là ou là. Le Ventoux est un mythe du Tour de France, c'est la légende du Tour de France. Il faut que la bagarre ait lieu sur ses flancs. Ça aura lieu sur les pentes les plus raides, mais dans la partie la plus abritée avant de sortir sur la Lune, tout en haut.
C'est une déception, on l'imagine, pour vous en tant qu'organisateur?
Non. Enfin, c'est une déception. Quand on peut aller tout en haut du Ventoux, on y va, mais je le dirais pas du tout comme ça. Très très équilibré. Ces derniers jours, on a vu les coureurs arriver avec un orage terrible de grêle. Ils ont affronté le brouillard dans la descente de Valira.
Bon, on va couper parce qu'on entend très mal Christian Prudhomme malheureusement, mais l'information est passée. Le directeur du Tour qui nous annonce donc l'arrivée de l'étape prévue demain à 1912 mètres au sommet du Mont Ventoux, eh bien se fera 6 km plus bas au Chalet Reynard. Fred, c'est
après 9 km d'ascension, bah tant pis, on n'aura pas 15 km d'ascension, mais bel et bien 9, et il y a de toute façon de quoi faire parce qu'on parle là de 9 km à des pentes supérieure à 9% de déclivité moyenne. Donc elle ne sera pas hors catégorie cette ascension, mais au moins en première. Et il y aura tout de même une explication au sommet, même si le sommet ne sera qu'à 1435 mètres demain au Chalet Reynard.
Voilà, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Le Mont Ventoux, quelque peu escamoté demain dans l'une des étapes reines de ce Tour de France. On en reparle évidemment entre 19h et 20h tout à l'heure. Messieurs, merci, à tout à l'heure. On va retrouver tout de suite Laurent Guédard pour le récap des courses hippiques du jour. Salut Laurent.
Salut Christophe, le quintet d'aujourd'hui à Enghien a été remporté par le 9 Orient Horse, la deuxième place pour le 2 Telmino Lines, la troisième pour l'As Aradzi Boko, c'est le 16 Pioneer Guerre qui s'empare de la quatrième place devant le 15 Roi Boss, 9, 2, A, 16 et 15, une combinaison qui rapporte 1085 € dans l'ordre et plus de 2360 € par internet. Demain, direction Saint-Cloud pour une magnifique réunion en semi-nocturne avec notamment le Grand Prix de Paris, quatrième étape des épiques séries. Le quintet, quant à lui, est engagé dans la quatrième course avec un départ prévu à 18h55. Je vous propose tout d'abord le 8 Kingsley, un poulain qui n'a qu'à répéter sa récente deuxième place pour jouer un tout premier rôle. Et le 9 Running Waters, une pouliche dotée d'une belle pointe de vitesse finale qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Et je vous rappelle que d'autres informations, mais également des paris, sont disponibles sur rmcsport.fr.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
17h56 sur RMC. Le Tour de France va faire une petite pause. On revient tout à l'heure avec Cyril Guimard, évidemment, et toute l'équipe. Martial, il sera même avec toi dans quelques instants. Cyril
Guimard, 18h20,
pour cette incroyable étape.
À 18h20, évidemment. On reviendra à Montpellier, mais on va aussi partir plus loin à Rio. Notre rendez-vous Before Rio tous les jours, 18h30. Et on sera aujourd'hui avec Dimitri Bascou, le champion d'Europe du 110 mètres haies, qui sera en studio avec nous. Et puis, on vous dira tout sur le football olympique. Et Dieu sait qu'au Brésil, c'est très important.